Vous écoutez RTL.
15h04 sur RTL, on est fait pour s'entendre. C'est à vous, Flavie Flamand, bonjour.
Bonjour Bénédicte Tassard. Bénédicte, je vous rends l'antenne à 16h pour un prochain point sur l'information sur RTL. À tout à l'heure. Crise, insécurité, individualisme, intolérance. Et si je vous disais que le monde va de mieux en mieux? Nos invités vont nous faire du bien cet après-midi dans On est fait pour s'entendre. Et c'est tout de suite en direct sur RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver à l'orée d'une nouvelle semaine de partage dans On est fait pour s'entendre. Nous sommes en direct, vous le savez, tous les jours jusqu'à 16h. Ici, on échange, on parle, on s'écoute, on s'ouvre, on n'aime pas les certitudes et puis on aborde le ton qui monte. Ça ne nous empêche pas de nous indigner, non, mais on le fait toujours dans le calme et dans le respect de l'autre. Et puis on se dit souvent, en sortant de notre émission, eh bien qu'on a appris toujours un petit peu quelque chose et que ça nous rend toujours un petit peu meilleur. Alors merci pour votre fidélité et merci pour ce que vous êtes. 3210 les réseaux sociaux, si vous n'arrivez pas à nous joindre, c'est vraiment que vous y mettez du vôtre. Aujourd'hui, j'ai mal à mon monde. Je pense à ces jeunes filles qui, hier, arpentaient la salle des pas perdus de la gare de Marseille et dont la vie a été fauchée par un fou. Je pense à ces amateurs de musique qui dansaient joyeusement sur de la country à Las Vegas avant de se prendre les balles d'un salopard. Je pense à Anne-Berthe qui s'en est allée mourir dans la dignité en Belgique et dont l'ouvrage bouleversant, Le tout dernier été, sortira dans 2 jours chez Fayard. Bref, aujourd'hui, je suis tentée de vous dire que ça va pas très fort. Avez-vous, vous aussi, le sentiment de vivre dans une époque particulièrement difficile? Tout va-t-il de plus en plus mal ou de mieux en mieux? Nos invités d'aujourd'hui vont nous aider à poser un autre regard sur notre monde et on les remercie d'être là. Pierre-Henri Tavoglio, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL. Vous êtes maître de conférences en philosophie à l'Université Paris-Sorbonne. Vous êtes président du Collège de philosophie et auteur de cet ouvrage « De mieux en mieux et de pire en pire » aux éditions Odile Jacob. Cette émission, elle a été programmée il y a quelques semaines, mais ça fait du bien de vous voir.
Eh ben écoutez, c'est gentil.
Si je vous dis qu'on a du boulot jusqu'à 16h sur RTL pour nous remonter le moral.
Oui, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre la tragédie de l'existence qui restera de tout temps et en tout lieu. Et puis effectivement, un diagnostic lucide sur l'époque.
Ouais.
Et ce ne sont pas les nouvelles, voire les mauvaises nouvelles qui font un diagnostic sur l'époque.
Voilà, vous dites de tout temps et de toute époque, ça veut dire que notre société d'aujourd'hui a ses particularités comme celle aussi d'hier et d'avant-hier qui avait un nom. D'ailleurs, vous commencez votre ouvrage en disant en fait, on a du mal à définir notre époque, on ne sait même pas comment l'appeler.
Oui, c'est très difficile. Il y avait l'époque moderne, le Moyen-Âge, la Renaissance. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien parce que modernité, ça fait longtemps. Contemporain, ça vaut pour tout temps présent.
Oui.
Alors, on peut être tenté, effectivement, par exemple, de l'hypermodernité. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien parce qu'on a le sentiment que c'est la modernité, mais avec une exacerbation de tout,
oui,
en quantité et en qualité et en extension.
Très
Donc,
bien.
C'est ça un peu le mot qui pourrait s'imposer.
Bon, on va développer de toute façon tout ça avec vous et également en compagnie de Jacques Lecomte. Bonjour Jacques Lecomte.
Bonjour.
Vous êtes un peu enrubé vous aujourd'hui, vous
avez
un ennemi qui est le microbe, que vous garderez pour vous. Vous êtes docteur en psychologie, vous êtes à l'origine de l'association de psychologie positive et vous signez « Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez » aux éditions Les Arènes. C'est vrai ça docteur?
Oui c'est vrai, c'est-à-dire par rapport à l'image médiatique qui nous est renvoyée du monde, en particulier par rapport à la violence, le terrorisme, les guerres et tout ça, oui le monde va mieux, et puis aussi la pollution. Il y a des problèmes et je ne le dis pas puisque j'en parle tout au long du livre, mais je montre qu'il y a quand même des progrès par rapport à il y a 20-25 ans.
Si je vous demandais de trouver un mot pour définir notre époque?
Alors je serais bien embêté. Alors j'ai pas réfléchi. Oui, hypermodernité, oui, c'est. Et puis je dirais avenir, parce que pour moi, l'époque, c'est surtout avenir. C'est-à-dire, et un avenir qu'on construit, qui peut aller vers le pire ou vers le meilleur, et c'est à nous de le construire.
Pierre-Henri Tavoglio, est-ce qu'on a raison d'avoir peur aujourd'hui? C'est le mot qui revient dans la majorité des messages que l'on reçoit sur les réseaux sociaux de cette émission.
Époque anxiogène. Alors c'est un point de vue très intéressant, parce qu'effectivement, quand on regarde les choses, et le livre de Jacques Lecomte le montre très bien, un bilan objectif de la situation, et avec un peu de recul historique, on a le sentiment, effectivement, que les choses objectivement vont beaucoup mieux, espérance de vie, sur le plan sanitaire, les guerres, en tout cas en Occident, s'éloignent de notre horizon immédiat, donc j'allais dire tous les signaux sont au vert. Or, paradoxalement, on devrait dire, mais tout va bien, nous sommes en sécurité, comme jamais dans l'histoire de l'humanité, et c'est le sentiment inverse, c'est-à-dire plus les choses, j'allais dire, vont mieux, plus on a peur. Alors c'est ça qu'il faut essayer d'expliquer, et il me semble qu'une des clés possibles, c'est qu'on vit dans un monde sans grand discours tout fait, il n'y a plus les religions, il n'y a plus les idéologies, et d'une certaine façon, et c'est un peu paradoxal, on va trouver dans la peur quelque chose qui donne sens, qui nous rassure.
Une forme de tuteur, quoi.
Une forme de tuteur, c'est-à-dire, effectivement, ça donne des clés, ça permet d'expliquer le monde. Vous voyez, même dans les comportements très, très quotidiens, comme le fait de manger. Avant, il y avait des ordres, des rites du manger. On mangeait avec, selon la religion, etc. Aujourd'hui, on n'a plus tout ça. On peut manger de tout, mexicain, africain, tout est possible.
Même mexicain, africain, dans la même
assiette. Les deux en même temps, oui, c'est possible.
Pareil pour la religion.
Absolument,
aujourd'hui, on s'invente des religions.
Et donc, d'une certaine façon, les seules choses qui peuvent nous dire au quotidien comment vivre, comment agir, c'est effectivement la santé. Ouais. C'est l'inquiétude. Il faut manger sain. Pas forcément bon, mais sain.
Vous vouliez rebondir, Jacques ?
Oui, juste un exemple, la violence, la criminalité. Par exemple, dans tout l'Occident, la criminalité a radicalement baissé depuis 20-30 ans. Exemple, en Île-de-France, elle a été divisée par 3 en 20 ans. Mais parallèlement, la violence a énormément augmenté dans les médias. C'est-à-dire la part que les médias accordent aux faits divers et à la criminalité a augmenté de façon considérable. Donc il est normal que nous pensions que le monde va de plus en plus mal et il y a de plus en plus de crimes. Si on prend l'actualité d'aujourd'hui, il est tout à fait normal de parler d'une fusillade où il y a 50 morts. En revanche, faire la une des journaux sur 2 morts, ça n'existait pas il y a 20 ans. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, mais est-ce que ça justifie de mettre ça en une des journaux alors qu'il y a d'autres événements aussi important, voire plus important.
En tout cas, ça l'explique, justement, cette peur. Et on va en parler avec vous sur l'antenne d'RTL à travers tous les messages que vous nous laissez sur les réseaux sociaux. Sachez que cette semaine, le réseau de parfumerie Institut Beauty Success et RTL offre à tous ceux qui interviennent à l'antenne un généreux panier beauté d'une valeur de plus de 100 euros. Comme ça, vous serez flippé, mais vous serez beau, dites donc. C'est super, non ? Voilà, vous composez le 3210 si vous souhaitez partager avec nous sur cette antenne et on donnera la parole dans un instant à Magali en direct sur RTL. Vous allez voir, cette émission va vous faire du bien. On est ensemble jusqu'à 16h.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Voilà, pendant que Jacques Lecomte se mouche, parce qu'on vous l'a dit, Jacques Lecomte est malade pour ceux que ça intéresse. Jacques, vous m'avez dit que c'était de la rhinite allergique. Hein. J'espère que c'est sérieux, hein, que vous n'allez pas tous nous contaminer parce qu'on est des angoissés aujourd'hui sur l'antenne d'RTL.
Merci. Voilà.
Est-ce que c'était vraiment mieux avant ? Est-ce qu'on vit vraiment dans une époque anxiogène ? On en parle avec vous et avec nos invités que sont Pierre-Henri Tavoyot et Jacques Lecomte. Alors, des messages qui nous arrivent sur les réseaux sociaux avant de donner la parole à Magali. Adassa qui nous dit comment être serein après ce qui s'est produit hier à la gare de Marseille. On vit une époque où le climat d'insécurité est plus fort que jamais. Françoise, j'ai du mal à ne pas angoisser dans des endroits où il y a du monde depuis les attentats. Je ne vais plus au ciné ni au concert. Parfois, je me force à profiter de la vie car on n'en a qu'une, mais j'ai peur. D'autres messages. Cindy, j'ai 26 ans. Alors, elle est jeune, Cindy. Hein. Et j'ai l'impression que quand j'étais gosse, il y avait moins de fous. Mais peut-être que je ne m'en rendais pas encore compte. Quand je vois tous ces enlèvements, les guerres, le terrorisme, ça me fait peur. Je sors, je profite de la vie, mais je fais attention, je ne suis jamais vraiment rassurée. Christelle, à 9 ans pendant les vacances, je prenais mon vélo le matin, je parcourais des dizaines de fois mon village avec mes potes jusqu'au soleil couchant. À 9 ans aujourd'hui, c'est moins rassurant pour les parents. Est-ce que la surinformation, selon vous, et je m'adresse à vous deux, on va commencer avec vous Pierre-Henri, est-ce que la surinformation aujourd'hui nous installe dans un climat d'insécurité ?
Incontestablement. C'est d'ailleurs, du point de vue du recul historique, un sacré coup d'opposition par rapport au message des Lumières. Les Lumières nous disaient, plus on sait, plus on va être libre et plus on va être heureux. Oui. Et en fait, il faut constater qu'on sait beaucoup plus de choses. C'est comme quand on va sur un site médical, sur Internet, on a un petit bobo, on va regarder et on en ressort tétanisé. C'est-à-dire, plus on sait, eh bien, plus on a peur. Mais pourquoi ? Parce qu'effectivement, face à cette masse d'informations, on n'a pas les grilles de lecture. Et les grilles de lecture, ça demande du travail. Ça demande effectivement d'avoir un peu de compétences, de hiérarchiser, de voir ce qui est vraiment effrayant et ce qui ne l'est pas. Et ça demande beaucoup de boulot. C'est-à-dire, il faut vraiment, même quand on est un intellectuel ou un professionnel comme on peut l'être, on est totalement démuni face à cette masse et cette saturation d'informations. Voilà ce qui a changé. Et du coup, aujourd'hui, l'exigence pour lutter contre ça, c'est effectivement que les journalistes, que les intellectuels, que les écrivains, fournissent des grilles de lecture qui permettent de réorganiser un petit peu tout ça. Sinon, on a peur.
Alors, il y a l'idée de la grille de lecture. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas aussi cultivé une certaine ignorance, je dirais, quelque part aussi, en réaction à cette surinformation et à cette connaissance dont parlait Pierre-Henri ? Ignorance.
Oui.
Ignorance pour ceux qui sont malades.
Oui. Alors, c'est vrai que la première auditrice que vous avez citée, c'est parler de climat d'insécurité. Et incontestablement, ce climat, il a augmenté. Mais, encore une fois, il a augmenté d'une manière bien plus importante et totalement disproportionnée par rapport à la violence. Mmh. Et elle dit, toutes les guerres... Il faut savoir, par exemple, que le nombre de morts par guerre a diminué. Il a un petit peu augmenté ces dernières années, mais il a diminué tout simplement parce que les guerres, par exemple, ne sont plus des guerres internationales, ce sont des guerres civiles qui font des centaines de fois moins de morts. Mais les médias nous en parlent de plus en plus. Donc, si vous voulez, le monde ne va pas plus mal qu'avant, mais on a l'impression qu'il va plus mal. Et puis une autre chose aussi qui donne cette impression, il y a une sorte de paradoxe psychologique qui est que, moins il y a de violence, plus on est sensible à la violence. Mmh. Et c'est juste, avant, il y avait de la violence, plus, enfin au Moyen-Âge, le risque d'avoir un débrigand qui nous attaque, c'était là. Mmh. Maintenant, c'est devenu très rare. Mais comme c'est devenu très rare, on y est plus sensible. Et lorsque ça arrive dans les médias, pas dans la vie des personnes, eh bien les personnes, ils ont l'impression qu'ils vont en être victimes demain. Ça reste extrêmement rare qu'une personne soit victime d'un acte de violence aujourd'hui. Avant, c'était plus fréquent et on y était plus habitué.
Pierre-Henri Tavoyot.
On peut ajouter aussi un argument supplémentaire, tout à fait d'accord avec cette analyse, c'est aussi que la peur s'est déculpabilisée. Et ça, c'est très très intéressant, parce que dans l'histoire de l'humanité, toute la tradition philosophique, la peur, c'est pour les femmes et les enfants. Mais les hommes, les vrais, c'est-à-dire ceux qui comptent à l'époque, ils n'ont pas peur. Et ce qui est intéressant, alors je ne dis pas que le monde s'est féminisé, parce que ça serait évidemment très, très indécent, mais la peur est devenue un devoir,
presque une vertu
et une sagesse presque. Et vous mettez sur un plateau de radio ou télévision quelqu'un qui vous dit « ayez peur » et quelqu'un qui vous dit « n'ayez pas peur », on va spontanément croire celui qui nous dit qu'il faut avoir peur. Ouais. Comme s'il y avait une sorte de gain de connaissance dans ce discours angoissant. Et ça, il faut lutter contre ça. C'est très difficile aussi.
Bonjour Magali, bienvenue sur RTL.
Bonjour Flavie.
Magali, est-ce que vous avez peur, vous ?
J'ai peur moyennement, mais disons que c'est pas l'époque qui me fait plus peur qu'autre chose, quoi. C'est pas l'époque d'aujourd'hui qui me fait peur.
D'accord. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va développer cette idée-là avec vous dans un instant. Vous pensez que notre époque est différente, elle n'est pas nécessairement plus difficile. Donc, vous allez nous tenir un discours qui va peut-être trancher avec certains messages que l'on reçoit sur l'antenne d'RTL. Et ce sera tout de suite dans On est fait pour s'entendre. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Merci d'être avec nous. Cédric qui nous écrit « On est mieux maintenant, les gens ne réalisent pas le bonheur qu'ils peuvent avoir. Après, c'est à chacun d'accepter ce qu'il a et ce qu'il n'a pas et ce qu'il doit envier les autres. Il y a toujours pire que soi, arrêtons de vivre comme des égoïstes, regardons ce qui se passe ailleurs. Et le plus important, c'est de ne pas être accro à tout ce qui est télévision, internet, c'est ce qui nous rend fous. » On parle aujourd'hui de notre époque, on essaie de poser un regard lucide, averti sur le monde qui nous entoure, dont on peut à juste titre avoir le sentiment qu'il est anxiogène, qu'il est ultra-violent, la crise, le chômage, enfin bon, vous connaissez évidemment la chanson par cœur, et néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas une façon aussi de résister à cette morosité et à cette angoisse ambiante? On en parle aujourd'hui avec nos invités que sont Pierre-Henri Tavoyot, dont je vous conseille l'ouvrage « De mieux en mieux et de pire en pire » aux éditions Odile Jacob, et Jacques Lecomte, « Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez » aux éditions Les Arènes, des ouvrages en plus qui nous éclairent sur l'avant, un avant qu'on ne connaît pas forcément, Jacques Lecomte. Mais parfois, effectivement, ça fait partie de la grille de lecture dont nous parlait Pierre-Henri Tavoyot. Quand on est conscient de l'avant, bah, finalement, on trouve que le maintenant n'est pas si mal.
Oui, et j'ai envie de dire, on oublie très vite. L'être humain est amnésique des bonnes choses et on s'y habitue très vite. Ouais. Je donne un exemple que je sais dans le livre, la variole, par exemple, qui a tué des millions de gens. Ça y est, elle est éradiquée, hein. Mais bon, on n'y pense plus.
Ouais.
Bon. Le sida baisse des cas de sida de façon radical depuis 20 ans. Beaucoup moins d'orphelins du sida aujourd'hui. La faim dans le monde, par exemple, c'est très intéressant. La faim dans le monde, pratiquement 2 milliards de personnes qui sont sorties de la faim en 25 ans. Alors, ça ne veut pas dire que tout va bien. Il y a encore 800 millions de personnes qui souffrent de la faim. Mais vous voyez, c'est considérable, 2 milliards de personnes. Donc, il y a plein d'améliorations dont on parle peu, et surtout quand on en parle, on l'oublie très vite.
Alors on va demander à Magali si elle est consciente de tout ça. Magali, merci d'être avec nous. Vous avez 39 ans, vous habitez en Seine-et-Marne, et quand on vous parle de l'époque d'aujourd'hui, vous pensez à l'époque de votre grand-mère.
Oui, exactement. Parce qu'en fait, moi j'ai eu notamment une grand-mère qui a vécu les deux guerres, donc déjà qui était petite pendant la Première Guerre mondiale et qui ensuite a vécu adulte pendant Seconde Guerre mondiale, avec un mari qui était résistant et qui a dû partir 18 mois parce qu'il a été dénoncé et donc a disparu. Elle ne savait absolument pas s'il était vivant ou mort. Et qui s'est retrouvé avec 3 enfants en bas âge et qui, pendant 18 mois, a dû les élever sans savoir si un jour son mari revenait. Voilà, donc quand je vois ça, quand je vois de l'autre côté ma grand-mère qui, elle, était condamnée à la cuisine, à faire le ménage. Et puis, à l'époque, le ménage, c'était pas ménage comme on le connaît aujourd'hui. Hein. Je veux dire, elle a eu 3 filles. Quand elle me racontait, quand il fallait nettoyer les couches après la gastro-entérite, c'était pas les couches lavables d'aujourd'hui. Donc, du coup, quand on connaît tout ça, quand mes grand-mères m'ont raconté tout ça, quand mon père m'a raconté tout ça, je veux dire, on peut pas. Enfin, moi, j'ai du mal à me dire qu'aujourd'hui, c'est moins bien, quoi. Je veux dire, on a quand même eu une avancée. Dans le temps, qui est énorme, qui sont des bienfaits. Je parle pour les femmes, mais je pense à plein de choses aussi pour les hommes et pour les enfants. Après, il y a d'autres difficultés suite à ces libertés-là qui ont émergé et qui sont plus difficiles aujourd'hui parce qu'ils n'avaient pas ces libertés-là et ces libertés-là sont nées d'autres difficultés et d'autres angoisses. Mais c'est juste différent. C'est pas ni mieux ni pire.
Magali, vous êtes maman d'une petite fille de 8 ans.
Oui.
Est-ce que vous avez peur pour votre petite fille? Est-ce que vous vous inquiétez du monde dans lequel elle va grandir?
Bien sûr, mais en tant que maman. Je pense que n'importe quelle maman, universellement, a peur pour ses enfants, la peur de ce qui peut arriver, d'autant plus pour une fille, je pense, parce qu'on a peur de tout ce qui peut arriver en tant que fille et future femme. Voilà, évidemment, j'ai peur pour elle. Évidemment que quand je commence à essayer d'aller seule à l'école, évidemment que je me pose des questions, que j'ai une angoisse qui me travaille, que je pense à des choses pas très glorieuses. Voilà, mais en même temps, je pense que c'est mon statut de maman qui veut ça. Et que on a peur de l'avenir pour nos enfants. On a peur qu'ils aient du chômage. On a peur qu'ils tombent malades. On a peur. Mais c'est pas dû à l'époque. Je pense que mes grand-mères avaient les mêmes angoisses pour leurs enfants. Ma mère avait les mêmes angoisses pour ses enfants, mais différemment parce que c'était une autre époque. Voilà.
Cette inquiétude ou cette angoisse, donc en tant que mère, vous la partagez aussi avec votre compagnon? Est-ce qu'il réagit de la même façon? Est-ce qu'il a le même regard?
C'est quelqu'un qui est extrêmement anxieux, extrêmement angoissé. Donc déjà, naturellement, il va s'angoisser pour elle. Donc moi, je suis plutôt dans le couple, je suis plutôt quelqu'un qui va calmer les choses et essayer de passer au-dessus de cette crainte, quoi, au-dessus de cette angoisse et de dire, de mettre des mots sur cette angoisse en disant c'est normal, on est ses parents, c'est normal qu'on s'angoisse pour elle, c'est normal, mais il faut pas lui transmettre cette angoisse et puis il faut lui donner les armes surtout pour que ces craintes-là ne deviennent pas un poids, quoi, qu'elle trouve des solutions à elle pour combattre tout ça, quoi.
Eh bien, je vous remercie, Magali, d'être intervenue sur cette antenne. On va rebondir sur votre témoignage dans un instant avec nos invités. J'aime bien cette idée de trouver des solutions, d'avoir des ressources en soi aussi pour vivre dans notre époque actuelle. Vous embrasserez votre petite fille et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et vous restez évidemment avec nous jusqu'à 16h, hein, ça va être passionnant. On vous embrasse.
Bien sûr.
Salut Magali. Au revoir, merci.
Votre après-midi sur RTL. 14h, la curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Chaque jour, on répond aux questions qu'on se pose tous et à celles qu'on ne se pose pas.
Autour d'intervenants passionnés et donc passionnants.
15h, on est fait pour s'entendre. Flavie Flamand.
Des thèmes qui nous concernent tous, de l'interactivité, mais des rires aussi.
À 16h, retrouvez Laurent Ruquier et les grosses têtes.
Vous faire rire en répondant à des questions culturelles ou des questions sur l'actualité, c'est le plaisir quotidien des grosses têtes sur RTL.
Découverte, partage, humour, bel après-midi sur RTL. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Il y a un instant, en direct sur RTL, Magali nous livrait son témoignage, son point de vue sur notre époque actuelle. Et je vais demander à nos invités de rebondir justement. Qu'est-ce que vous en avez retenu, Pierre-Henri Tavoyot ?
Même ça, il y a deux choses qui me paraissent vraiment très importantes. Effectivement, le fait que c'est peut-être moins notre époque qui devient anxiogène, que notre niveau d'exigence qui augmente. C'est comme si, en fait, vous voyez, la démocratie nous promettait la totale maîtrise de notre destin, le capitalisme nous promettait la totale prospérité et la modernité nous promettait le bonheur absolu. Alors effectivement, dans ce contexte-là, c'est difficile de ne pas avoir peur, ça c'est clair, parce qu'on n'aura pas la maîtrise, on n'aura pas la prospérité absolue et on n'aura pas le bonheur absolu. Donc effectivement, le niveau augmente, donc effectivement, l'angoisse aussi augmente. Puis deuxième point, c'est peut-être sur je trouve très intéressant ce qu'elle disait sur sa fille et la volonté de ne pas lui transmettre l'angoisse. On est tenté par l'hyperprotection. Alors qu'on vit encore une fois dans une société beaucoup plus sécurisée qu'auparavant. On peut se référer à quelques textes, on a un magnifique témoignage. Lisez les mémoires d'un simple, je crois que c'est 1870, c'est un paysan qui raconte voilà, sa vie. Et c'est un discours qui est empreint de fatalisme. Il sait que sa vie, ça va être terrible. Il va en baver, il va mourir peut-être à n'importe quel moment, les proches vont mourir. Et il vit ça avec une luminosité absolument incroyable. Voilà, parce qu'il sait que la vie est dure. Mais il sait aussi que ben, s'il arrive à sauver sa peau, ça va bien se passer. Nous avons exactement le sentiment inverse. On a un espoir infini, peut-être impossible, et du coup, on est tenté par l'hyperprotection. Et pour l'éducation, c'est vraiment un problème, parce que quand on dit « protégeons l'enfance », bien sûr, il faut protéger l'enfance. Mais si on protège trop l'enfance, on va l'empêcher de grandir. Il ne faut pas protéger l'enfance, il faut protéger la volonté de grandir des enfants. Et ça, ça suppose un peu de risque. Ça suppose effectivement de lâcher la bride. Sinon, ils ne vont pas grandir, nos petits, et ils vont être aussi malheureux et très angoissés. Et ça, c'est un discours qu'il est aujourd'hui très difficile de tenir et de diffuser.
Jacques Lecomte.
Oui, alors je vais rebondir juste sur ce que vient de dire mon collaborateur. Enfin, effectivement, par exemple, des études de psychologie ont montré que la surprotection de l'enfant a des effets extrêmement néfastes, au moins autant que le désintérêt. Donc, il est important de protéger l'enfant, c'est normal, c'est le rôle des parents, mais pas de le surprotéger. Et de façon plus générale, et je rebondis sur le témoignage Magali, en fait, il faut faire des distinctions. Que face au monde, par rapport à nos enfants, toutes sortes de choses, eh bien, que nous soyons lucides, que nous soyons vigilants, ça me semble important. Que nous soyons angoissés, ça, c'est excessif. Et on sait que lorsque nous avons des attitudes, un regard angoissé sur le monde et sur les gens, en fait, ça a tendance à nous tétaniser. Du coup, on en devient incapable d'agir. Donc, il y a un bon niveau d'alerte, mais lorsqu'on le dépasse, eh bien, c'est plutôt néfaste.
La paralysie dont vous parlez, on la retrouve dans certains messages qu'on reçoit d'auditeurs qui nous disent « je me force à vivre, je m'oblige à sortir ». Là, on passe à côté de sa vie, là, Pierre-Henri. C'est-à-dire qu'on est dans une angoisse qui est exacerbée et qui, pour le coup, vient nous empêcher de vivre.
Oui, c'est-à-dire que ce qu'il faut avoir en ligne de mire, c'est un peu difficile à dire dans notre monde. On valorise beaucoup l'enfance, la jeunesse, parfois aussi la vieillesse, on peut la valoriser aussi, c'est l'adulte. Le regard d'adulte sur le monde, c'est le regard qui dit, voilà, j'ai acquis, tant bien que mal, les clés de lecture dont on parlait tout à l'heure. Je n'ai pas tout vu, je n'ai pas tout fait, mais j'en sais assez pour me débrouiller tant bien que mal dans la vie. Mais je sais aussi qu'il y a des choses qui peuvent me sécher littéralement et des accidents de la vie. Voilà. Donc je sais aussi, parce que je me suis planté, parce que je me suis trompé, parce que j'ai connu des échecs, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais justement parce que j'ai vécu ça, j'arrive à vivre et je ne me force pas à vivre, mais je vis sans illusion. Et c'est vraiment le regard lucide qui est, à mon avis, la clé sur les questions de peur.
Un message de Claude. Je trouve que le monde dans lequel on vit est magnifique, mais que les gens deviennent incroyablement méchants et égoïstes. C'est nous qui ne sommes pas à la hauteur du monde qui nous entoure et dans lequel on vit, Jacques Lecomte.
Oui, alors là, le message est un peu paradoxal, parce que d'une part, le monde va mieux et les gens sont très égoïstes. Donc, vous savez, les gens ne sont pas si égoïstes que ça. Là aussi, des travaux de psychologie nous montrent, par exemple, si on demande à des personnes, on fait une enquête sur 100, 200, 300 personnes, est-ce que vous vous sentez plus gentil, moins gentil, également gentil que la moyenne des gens? Environ 80% des gens se sentent plus gentils que les autres. Statistiquement, ça ne fonctionne pas. Donc, en fait, on a une tendance à nous considérer comme meilleurs que la moyenne des gens. Donc, les gens sont moins bons que nous, donc, à terme, ils sont égoïstes. Non, je crois qu'il faut aussi avoir un regard positif sur les autres. Peut-être qu'on les verra moins égoïstes qu'on ne les voit aujourd'hui.
Pierre-Henri Tavoyot.
Je trouve qu'il faut, sur ces questions, inverser la charge de la preuve. C'est-à-dire pas se dire pourquoi le monde va mal. Oui, bien sûr, ça va mal. De tout temps, ça va mal. Mais justement, c'est-à-dire, tiens, pourquoi il va un peu bien ? Vous voyez, on est dans le monde capitaliste. Pourquoi il y a encore des gens généreux ? On est dans une démocratie, dans un individualisme. Pourquoi il y a encore du lien social ? On est dans un monde du règne de l'intérêt. Pourquoi il y a encore des gens qui se préoccupent des autres ? Inversons la charge. Parce que le vrai mystère, c'est là. C'est pas que le monde aille mal. C'est qu'il continue d'avoir un certain nombre de ressources à déployer qui rendent les gens effectivement un peu heureux.
Dans un instant, je vous lirai le message d'Éléonore sur cette antenne. On verra qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une cohabitation entre la violence et la solidarité. Parfois, il y a des moments hyper compliqués, mais dans lesquels, justement, de beaux sentiments se réveillent et c'est toujours bon. A tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Un message que nous avons reçu d'Éléonore sur Facebook. Il y a quelques jours, un monsieur très âgé s'est fait bousculer volontairement dans les transports par un groupe de jeunes. Il leur a dit ce qu'il avait à dire. Les jeunes se sont énervés et ont menacé de le frapper. Bien sûr, personne n'a laissé faire. Il n'y a plus de respect. Alors merci pour votre message, Éléonore. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'en fait, on n'a pas laissé faire. C'est qu'en fait, ce monsieur qui était en train de se faire agresser, Jacques Lecomte, il a dit ce qu'il avait à dire à ces jeunes. Et visiblement, ce monsieur a été aussi protégé par des gens qui se sont engagés. À dire que dans un monde dont on dit qu'il est violent, ou en tout cas la violence est là, elle est omniprésente, est-ce à dire aussi que naissent des sortes de mouvements de solidarité ? Est-ce que les gens posent des actes aussi pour résister à tout ça ?
Oui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des drames humains, soit par les forces naturelles, soit par d'autres êtres humains, à chaque fois, il y a aussi des gens qui se mettent au service des autres. L'exemple typique, par exemple, c'est dans les grandes catastrophes. Là, on a eu l'exemple des différents ouragans ces derniers temps.
À Saint-Martin, notamment.
Voilà. Eh bien, on sait que dans ces moments-là, la solidarité, la fraternité, le bien, eh bien, se manifestent de manière très, très importante. Et souvent, on dit que, par exemple, et là, ça a été encore le cas, on dit il y a des pillages, voilà, des meurtres. Ça, c'est les premiers jours dans les médias, c'est une inflation de nouvelles de ce type. Et puis, dans les jours qui viennent, mais de manière beaucoup moins de place dans les journaux, on dit « Ah ben non, on s'est trompé. Finalement, il n'y a pas eu tous les meurtres qu'on avait dit. » On a mis en une, et de façon très gros, qu'il y avait plein de meurtres, et quelques jours après, il y a des rectificatifs qui sont tout petits. Et ça, c'est bien dommage, parce que dans l'esprit des gens, on garde l'idée qu'il y a eu des meurtres et des pillages. L'exemple Irma, moi, je l'avais étudié pour d'autres antérieurement, et bien Irma, c'est ce qui s'est à nouveau passé. Les médias ont titré sur les meurtre et quelques jours après, on se rend compte qu'il n'y en a pas autant et voire pas du tout.
Mais ça n'est pas ce qu'on a retenu. Pierre-Henri Tavoyau.
Oui, c'est la solidarité qui se passe dans ces moments-là.
Oui.
Ça pose une question intéressante, c'est effectivement, nous vivons à l'âge de l'information en direct. Et cette information en direct, contrairement à tout ce qu'on dit, elle n'est pas brute, elle est scénarisée. Elle doit être scénarisée. Quelqu'un raconte l'information. Or, en direct, il faut faire des scénarios très très rapides, du clé en main. Et c'est quoi les scénarios très rapides ? C'est, il y a des salauds, il y a des méchants et il y a un complot. Voilà, grosso modo, on a des scénarios tout faits qui se présentent immédiatement. Et dans le fil, même le journaliste très compétent ne peut pas s'empêcher de scénariser des informations sous cette forme-là, parce que c'est ça qui les rend intéressantes. Sinon, les données brutes, ça voilà. Et donc, c'est cette scénarisation continue qui, effectivement, produit aussi des schémas d'angoisse. C'est ce qui rend intéressant l'actualité, sinon on ne l'écouterait pas. Il faut aussi se placer de ce point de vue-là. Et donc, la grande difficulté, c'est de substituer ces scénarios progressivement et le plus possible, mais ça demande du temps, pour le coup, à l'analyse. Et ça prend un peu plus de temps, il faut du recul.
Et de l'engagement.
Et d'ailleurs, il y a des fois des illusions, parce que par exemple, sur l'ouragan Katrina, il y avait des choses très intéressantes. On a montré des pillages, des scènes de pillage, et en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les seuls magasins qui avaient été pillés à ce moment-là, c'est les magasins d'alimentation et de vêtements.
Donc pour manger, se couvrir.
Pour manger, et puis pour avoir un peu chaud, parce que voilà, avoir des couvertures. Les magasins de luxe, juste à côté, n'ont pas été touchés. C'est pas du pillage, c'est de la survie. Mais à l'écran, on voit des pillages. Si ça n'est pas interprété, ce scénario dont vient de parler M. Tavoulot, si ça n'est pas interprété de façon juste, eh bien, c'est pris comme du pillage.
Je parlais de violence omniprésente et il y a un instant, on a ouvert hors antenne un chapitre cinéma. Le cinéma qui propose des films, vous parliez aussi de scénarii ultra-violents, Pierre-Henri Tavoyau, le cinéma qui propose aussi, aujourd'hui, il y a des blockbusters où tout le monde se castagne, quoi. C'est la fête à la désingue. Hein.
Oui, comme s'il y avait une sorte de corrélation inversée entre la baisse de la violence réelle et l'augmentation du besoin de violences scénarisées. Il y a plus d'homicides commis en une semaine de feuilletons américains ou de feuilletons télévisés en France grosso modo, le nombre d'homicides en France est 700 par an. Il n'a jamais été aussi bas. Eh bien, on peut dire qu'en une semaine de soirée télévisée, on s'est fait les 700 sans problème. Et avec des scénarios qui, quand on y réfléchit, sont assez pauvres et très, très répétitifs, très itératifs. Enfin, voilà, il y a un serial killer, un truc machin, voilà. Et puis, il y a le bon policier qui va résoudre ça. Donc, il y a un besoin, effectivement, peut-être de la mettre à distance, cette violence. Moi, j'apprécie aussi ces scénarios, ces polars. Enfin, je veux dire, je suis pas en train de dire que tous les gens sont idiots. Donc, il y a peut-être de notre côté cette volonté de mettre à distance et d'intégrer en quelque une violence qui n'est plus réelle, d'une certaine manière.
Et toujours une certaine fascination pour ça.
J'aimerais dire, il y a aussi un mythe qui est très largement répandu, c'est l'idée que finalement, s'il y a autant de mauvaises nouvelles, s'il y a autant de films violents, c'est parce que ça répond à un besoin, à une demande du public. Et ça, c'est un vrai mythe. Et en l'occurrence, pour les films, quels sont les films qui marchent bien? Il suffit de regarder sur Internet ce qu'on appelle le classement des films.
Intouchables.
Les meilleurs films, les plus grandes audiences, c'est Intouchables, c'est Les Coris, c'est Amélie Poulain, c'est Bienvenue chez les Ch'tis. Comme je dis, c'est soit de l'amour ou de l'humour. Et quand vous avez les deux, c'est intouchable. Et l'émission, cette émission à laquelle on participe aujourd'hui, c'est une des émissions qui marche le mieux sur RTL. Donc les informations positives, eh bien, elles répondent à un besoin et il y a une attente du public.
On se retrouve tout de suite, si vous le voulez bien, sur l'antenne d'RTL. On va parler d'optimisme et d'utopisme. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase « C'était mieux avant » Pierre-Henri Tavoyau?
Alors déjà, ça existe de tout temps. C'est de tout temps, ça a été mieux avant. Donc on se demande vraiment comment le monde a commencé. Ça, c'est la première chose. Ça avait un sens dans les sociétés traditionnelles. Les sociétés traditionnelles, c'est les sociétés qui sont organisées par le passé, où effectivement on dit il y a eu des grands ancêtres qui nous ont tout donné, etc. Donc ça peut fonctionner. Mais nous sommes des sociétés organisées sur l'avenir. C'est l'avenir qui nous porte. Et alors cet avenir, il ne faut pas forcément être bisounours, comme on disait. Et ça, c'est intéressant. Effectivement, les Français, par exemple, sont très réputés, très pessimistes à l'égard de l'avenir, ça a changé. Mais souvent, quand on leur dit « vous êtes pessimiste pour le monde », oui, mais pour vous. Ah non, pour moi, ça va très bien. Donc, il faut voir que le pessimisme est, dans l'ensemble, assez abstrait. Comme si, encore une fois, c'était une volonté de lire le monde, mais surtout pas d'apparaître trop optimiste, parce que ça peut être dangereux, mais vraiment plutôt que d'un constat ou d'une description de sa situation personnelle.
Avant de revenir sur l'optimisme, qu'on va développer aussi avec vous, Jacques Lecomte, un message de Pascal. Peut-on vraiment être nostalgique d'une époque que l'on n'a pas vécue? Est-ce qu'on fantasme pas le passé aussi? Est-ce qu'on n'a pas une tendance à oublier?
Ah bah oui, c'est clair. Bah, là, on
parlait des années 70, c'est un truc qui revient régulièrement. Moi, j'aurais voulu vivre dans les années 70. Oui.
Mais tout à l'heure, l'auditrice, je crois que c'était Magali, qui nous parlait de sa grand-mère qui nettoyait les couches, qui a connu deux guerres. Elle a perdu son mari pendant 18 mois parce qu'elle était résistante. Enfin, voilà, on fantasme complètement sur une sorte de monde imaginaire et paradisiaque qui a existé avant. Non, chaque époque a ses bons côtés et ses moins bons côtés. Il n'y a pas d'époque idéale.
Les années 70, si on se resitue.
Guerre d'Algérie, situation de la femme où encore en 65, elle n'a pas le droit d'ouvrir un compte en banque sans autorisation de son mari ou de ses parents.
Ni de faire des études et de s'inscrire à l'université.
Exactement. Donc, non, on ne peut pas totalement exagérer. Je suis en train de le relire par hasard. C'était De Gaulle de Perfit. C'est un portrait Conseil des ministres par Conseil des ministres pendant cette période de 62 à 70. Franchement, non, ça ne donne pas envie. C'est une période intéressante. Il se passe plein de choses, mais voilà.
Simplement Joe Dassin.
Non.
On se baladait à poil dans les champs. Ça restait. On a une tendance à oublier.
Effectivement, plein emploi, mais plein emploi pour qui? Il y a les études, effectivement, mais c'est pas le même emploi. Le niveau de revenu général est beaucoup plus faible. Le niveau de confort est beaucoup moins important. Enfin voilà, il y a plein de choses. Il faut étudier là l'économie du bonheur. On a des indications très intéressantes. Les travaux de Claudia Sénic en France sont vraiment passionnants, qui nous disent que c'est pas simplement le bonheur à l'instant T, mais c'est les perspectives de bonheur qui nous rendent véritablement heureux. Et au fond, la bonne définition du bonheur, plus que le revenu et tout le reste, c'est la qualité des liens, la qualité des relations qu'on tisse. Et ça, c'est intouchable. Et là, c'est vraiment très fort.
Emma qui nous écrit « Je me sens bien dans mon époque. Si seulement les gens savaient prendre conscience de leur chance et arrêter de regarder en arrière, se dire que tout était mieux avant. Notre monde actuel est loin d'être parfait, mais il nous offre de belles perspectives. À nous de savoir les saisir. Notre planète va mal, mais retroussons-nous les manches et faisons en sorte que ça aille mieux. Je suis peut-être trop optimiste, voire utopiste, mais j'ai le mérite de vouloir faire avancer les choses. » Alors, est-ce qu'on est dans le monde des bisounours, des cuculs à praline?
Moi, j'aime beaucoup ce que vient de dire cet auditeur. Moi, c'est une expression que j'emploie souvent, se retrousser les manches. J'ai inventé un mot qui s'appelle l'optiréalisme. Ça vaut ce que ça vaut, mais l'idée, c'est d'associer l'optimisme et le réalisme, mais c'est ce que j'appelle l'optiréalisme, c'est un optimisme, mais qui n'est pas un optimisme béat, comme quoi tout va nous tomber dessus de façon très, très positive demain. C'est un optimisme de l'engagement, et ça veut dire que le monde peut aller de mieux en mieux, mais à une condition, c'est que chacun d'entre nous, là où on est, eh bien justement, on se retrousse les manches. Depuis les plus hautes jusqu'aux plus bas, les niveaux les plus simples de la société, on a chacun un rôle à jouer. Or, plus on pense que le monde va mal, et plus on pense qu'on est impuissant face à ce monde, moins on fait, puisqu'on est impuissant. Ça nous tétanise. Ça paralyse. Il faut au contraire considérer qu'on peut avoir de l'action sur le monde.
Et c'est une façon aussi de donner du sens à son existence, alors qu'on est un petit peu paumé aujourd'hui, Pierre-Henri Tavoyon.
Oui, c'est la vieille querelle des anciens et des modernes. Les anciens sont des géants et nous devons nous incliner devant eux. Mais comme nous sommes des nains juchés sur les épaules des géants, nous voyons plus loin qu'eux. Voilà, donc d'une certaine manière, le regret du passé et l'espoir du présent, du futur peuvent aller ensemble.
Voilà, donc si on est optimiste, on n'est pas un doux rêveur en fait aujourd'hui, Jacques Lecomte.
Pas du tout, c'est une façon positive de voir le monde, mais surtout engagée.
Voilà, une façon de faire résistance quelque part aussi, peut-être. On se retrouve tout de suite sur l'antenne d'RTL, je vais également vous parler du programme de demain.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
Avant de vous conseiller les ouvrages de nos invités, Jacques Lecomte, une dernière pensée pour la route.
Je crois que le monde irait mieux si, au lieu de s'opposer les uns les autres, eh bien, on essayait de voir le meilleur chez l'autre. On sait que les plus grandes réussites écologiques qu'il y a eu ces dernières années, je pense à la réduction du problème de l'ozone, ou bien la dépollution du Rhin, qui était un cloaque à ciel ouvert il y a 30 ans, que maintenant on peut se baigner partout dans le Rhin, eh bien, c'est lorsque des ennemis se sont mis ensemble autour de la table, en l'occurrence, des militants écolos et des industriels. C'est la même chose avec Mandela. Il a fait le pari qu'il pouvait collaborer avec ses ennemis et qu'il en a fait ses partenaires. Je crois qu'un projet de société pourrait être de faire de nos ennemis des partenaires.
Très bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Jacques Lecomte.
Merci.
Vous avez levé le pouce comme ça, donc vous trouvez que cette émission était utile et c'était notre point de vue aussi. Et je rappelle donc l'Association de psychologie positive et votre ouvrage, donc Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez aux éditions Les Arènes, un livre tout jaune que vous pouvez repérer. Pierre-Henri Tavoyot, on n'est rien sans l'autre.
Oui, je pense que, en effet, c'est la perspective que, encore une fois, nos sociétés sont moins négatives et moins sombres qu'on ne le pense. Il y a des liens qui se refont, il y a de la générosité qui est présente, il ne faut pas y avoir un côté édulcoré, de dire que tout va bien, mais vraiment, il y a des richesses. Et l'énigme à vraiment comprendre, c'est pourquoi ça marche encore et non pas pourquoi ça ne marche plus.
Ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Pierre-Henri Tavoyot. Donc je rappelle, de mieux en mieux et de pire en pire aux éditions Odile Jacob. Demain sur RTL, nous parlerons d'un des piliers de notre équilibre. Elle nous évite des craintes inutiles, c'est la confiance en soi, si fragile aussi qu'un regard ou une parole peut mettre à mal. Voilà, parler de la confiance en soi, parler de la confiance en l'autre, ça aussi c'est l'avenir de notre société. Comment se forge-t-elle cette confiance? Comment la renforcer et comment la retrouver si on l'a perdue? Réponse avec nos échanges, ce sera demain à 15h avec vous en direct sur RTL. Vous le savez, tous les jours vous pouvez composer le 3210. D'ailleurs, ceux qui sont intervenus, Magali tout à l'heure sur cette antenne, ont gagné un généreux panier beauté d'une valeur de plus de 100 € offert par Beauty Success et RTL. Donc ça, c'est le cadeau de la journée. 3210 sur les réseaux sociaux pour vous retrouver demain dès 15h sur l'antenne d'RTL. Tout de suite, place au rire avec Laurent Ruquier et les Grosses Têtes. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.
Vous écoutez RTL.